Maintenant, on y est. Il n'y a rien d'autre à toucher, là. Hein? Good. Donc, Jacques, chapitre 3, et les versets 1 à 12. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. La prière a déjà été faite pour la prédication. Puisse le Seigneur bénir ces quelques paroles à nos cœurs. Le grand théologien allemand Hermann Bavinck, qui, à mon humble avis, est le plus grand théologien évangélique de la modernité. Ce grand théologien disait donc que le mal n'est pas matière, mais il est format. Et je pense que c'était une très, très belle émission, n'est-ce pas, alors que nous étions tous en pleine discussion pour définir quelle est l'essence du mal. Jusqu'alors, le débat allait un peu partout, dans toutes les directions. Augustin, par exemple, disait que le mal est un non-être, une absence. On disait que le mal, c'est comme le froid n'existe pas. C'est l'absence de chaleur. Le mal, c'est comme les ténèbres n'existent pas, n'ont pas d'essence. C'est l'absence de lumière. Mais le mal est beaucoup trop présent pour le considérer comme une absence. J'aime beaucoup ce que notre frère, Hermann Bavinck, a émis ici, et je pense que c'est tout à fait dans l'ordre biblique. Le mal n'est pas matière, mais il est forme. Il prend la bonne matière et il la déforme, d'où notre besoin constant de réforme, besoin collectif et besoin individuel, d'être réformé. Semper reformanda. On est toujours en train de reprendre la forme en quelque part. La raison donc de l'existence du mal est que nous avons déformé les bons dons de Dieu. Et ça commence où? Ça commence déjà en Éden. Hein? On voit Adam qui prend les bons dons que Dieu lui avait fait, entre autres le bon don de la liberté, pour aller tout mettre en forfait, là, pour aller zigouiller sa belle relation avec le Seigneur. Et il en va ainsi de tous les dons que Dieu nous a accordés. Quand on pense à l'art, quand on pense au travail, c'est une bénédiction le travail, mais on peut en faire un mauvais don, on peut en faire du mal. Lorsque mal fait ou lorsqu'abusif, le sexe, la nourriture, le boire, elle reste, vous continuez jusqu'à l'infini. Tous les bons dons que Dieu nous a faits pour que nous puissions en jouir correctement, on peut les déformer et ça devient du mal. Vous savez quoi? La langue ne fait pas exception à cette réalité-là. C'est un des plus beaux dons que Dieu nous est fait, mais quelle forme lui donnons-nous? Dans tout le monde créé, l'humain, à l'image de Dieu, est la seule créature à avoir reçu le don de la parole, le don de la pensée discursive. Passez tous les animaux en revue, tout le règne animal en revue, et seul l'homme a hérité de la parole et de la pensée discursive. Vous pouvez toujours faire prononcer des mots à un perroquet, mais vous ne le ferez pas parler. Parce que parler, c'est agiter la pensée discursive, ce qu'un perroquet ne peut faire. Seul l'être humain, à l'image de Dieu, a reçu ce beau don de la parole en raison du fait qu'il est à l'image de Dieu. Et nous l'exerçons comment? Nous l'exerçons par analogie. Vous connaissez l'expression analogique? Ça se situe entre ou à propos de ou à côté de, univoque et équivoque. Hein? Nous n'avons pas la parole comme Dieu a la parole, mais on l'a par analogie. La parole de Dieu, elle est créatrice, celle de l'homme ne l'est pas. Mais elle est créative, notre parole. On ne peut pas créer, nous. On ne peut pas être dans la business, passez-moi l'expression, du bara. Dieu créa, hein, Bereshit bara Elohim, au commencement, Dieu créa. On ne peut pas créer à partir de rien, mais à partir de ce que Dieu nous a donné, on peut faire des choses. Alors, on n'est pas créateur, mais on peut, à la rigueur, être créatif. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi c'était un grand mystère quand j'étais converti. La parole s'est faite chair. Je préférais la vieille version de la comment s'appelle la version catholique, la Jérusalem. Le Verbe s'est fait chair. Oh, c'est beau, hein? Mais enfin, le Verbe s'est fait chair. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? C'est un peu étrange comme expression. Mais là, plus on sonde et plus on grandit dans la connaissance de la parole de Dieu, plus on réalise à quel point c'est un concept qui est immense, immensément vaste. En fait, dans l'hébreu, vous connaissez le mot « parole » en grec, hein, le mot « logos ». C'est un mot avec lequel nous sommes familiers. Dans l'hébreu, c'est le mot « davar », au pluriel « davarim ». Et le mot « davar », c'est un mot puissant. Dieu crée par sa parole. Il dit « et la chose fut ». Dieu crée par sa parole. C'est une parole d'une très, très grande puissance. Dieu guérit par sa parole. Et Dieu s'est même incarné par sa parole. La nôtre n'a pas ce pouvoir, bien sûr. Elle a cependant beaucoup de capacités. Elle peut édifier ou décourager. Elle peut proclamer la vérité ou le mensonge. Elle peut éclairer ou confondre. Elle peut informer ou, comme on est si bon pour le faire, manipuler. Un bon don utilisé à mauvais escient devient du mal. Les Hébreux ne parlaient pas autant que nous on parle aujourd'hui. Leur discours était plus limité, malgré le propos que Jacques nous tient ici. En fait, aujourd'hui, tout le monde a voix au chapitre, tout le monde a son blog, tout le monde a sa bebelle sur Internet, tout le monde a son discours, hein? Tout le monde parle, tout le monde a voix au chapitre. Tous sont impliqués dans ce qu'on appelle aussi la « joking business », n'est-ce pas? Mais les Hébreux semblaient avoir une plus grande révérence que nous pour la sainte parole, pour la parole. On n'a qu'à regarder le nom de leurs enfants. C'est fascinant quel nom ils donnaient à leurs enfants. Ce n'est pas parce qu'ils aimaient leur auto, leur Mercedes, qu'ils l'appelaient leur fils Mercedes ou je ne sais trop quoi comme on voit aujourd'hui. Les noms étaient pratiquement prophétiques. L'enfant devenait ce que son nom disait. Ce n'était pas toujours glorieux. Prenons Nadal, par exemple. Son nom voulait dire fou et on sait qu'il n'était pas loin de là. Hein? Il était même dedans. On ne faisait pas nécessairement dans les fake news à l'époque. Cependant que le péché de la langue était bien présent, l'Ecclésiaste nous dit, chapitre 7, versets 21-22, « Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. » Hein? On est très porté à s'arrêter sur parfois les indiscrétions des autres. On dit qu'ils sont comme la mer morte. Il n'y a rien qui cale au fond. Tout reste en surface et on voit tout. Attention à cela. Quand on s'y arrête et qu'on accuse les autres d'indiscrétion, on a besoin de la deuxième partie du verset, de peur que, car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Alors avant d'accuser les autres, on se regarde soi-même et on dit, nous sommes tous dans la même, passez-moi l'expression hébraïque, bandwagon. Hein? Il y a quelques années, j'ai été invité par l'Université Laval à donner une conférence sur le christianisme. En fait, l'idée était qu'ils invitaient plusieurs personnes pour donner une conférence de 6 heures, c'était pas petit, sur différentes idéologies, pensées, religions. Et j'avais été l'heureux élu pour le christianisme, qui est quand même assez étonnant. L'Université Laval qui demande à un protestant, gradué depuis un bon petit moment, qui était perdu dans la boue, dans la brume, d'aller leur donner une conférence de 6 heures sur le christianisme. À mon grand étonnement. Mais je leur dis, mon nom existe quelque part dans vos registres, vous m'avez trouvé. Pourquoi est-ce que vous m'invitez, moi, à aller donner une conférence sur le christianisme, alors que votre faculté de théologie est pleine d'enseignants sur le christianisme? Oh, on est ouvert. Donc, écoutez, je vais y aller, mais on va dire les choses vraies. Vous n'avez personne dans toute votre faculté de théologie qui est capable de présenter le christianisme. Parce que chez vous, c'est tellement relatif, n'est-ce pas, que c'est une mer sans rive qui dérive sans fin. Ceci étant dit, je vais y aller. Après avoir accroché, je me suis repenti. Mais trop tard pour rappeler, pour dire « j'irai pas ». Alors, je suis effectivement allé. Et là, je me suis dit « qu'est-ce que je vais leur raconter ?» Écoutez, 6 heures, c'est une conférence, hein. Et il y avait peut-être, je ne sais pas, une quarantaine de ce qu'on appelait à l'époque les aumôniers. Ça n'existe plus aujourd'hui. On les appelle les accompagnateurs spirituels parce qu'ils doivent accompagner tout le monde. Les bouddhistes, tout le monde. Les chrétiens. Alors, il n'est pas question que vous ayez une doctrine qui transcende les autres et qui font foi de vérité, n'est-ce pas, et avec laquelle vous dirigez les gens. Non, non. Vous faites un avec eux et vous leur racontez, vous devenez un coach, en quelque sorte, pour les diriger. Alors, j'ai dit, comment est-ce que je vais commencer? Alors, j'ai commencé par une phrase un peu, je l'avoue, provocatrice. J'ai commencé avec Jean 14, 6. Jésus dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Inversez-le si vous voulez. Alors, je suis le chemin, la vérité et la vie. Immédiatement, une main se lève. Alors, un monsieur dans la quarantaine qui me dit, « Docteur Perron, vous allez admettre quand même que la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie, la vérité est plurielle, subtile. » Et c'est le genre de phrase qu'on aime aujourd'hui. On aime les contradictions. Hein? On aime les vérités chocs, on aime les phrases qui n'ont pas toujours de sens. Ça décoiffe, ça enlève là, l'establishment et on se sent plus libre, on dirait, en faisant cela. La vérité plurielle. Alors, bien sûr, j'ai rétorqué que dans ma grand-mère, quand j'étais petit, la et une, c'est féminin, n'est-ce pas? Alors, on a commencé là-dessus pendant une bonne demi-heure, il restait 5h30 à faire pour la conférence. Et malgré tout, par la grâce de Dieu, ça s'est quand même bien passé. J'ai eu de très bonnes discussions, de bons rapports avec certains, de moins bons avec d'autres et de très mauvais avec d'autres. Vous savez, vous voyez ce qu'on peut faire avec la langue? On peut désinformer. On prend une vérité, la vérité, et on dit « elle est plurielle ». J'ai lu un livre un jour, quand je suis allé prêcher en France, il y a un frère là-bas il m'a littéralement vendu un bouquin, quoi. Il m'a fait la description d'un bouquin, et là, je me disais, je ne peux plus vivre si je n'ai pas ce bouquin-là. C'est un bouquin d'Arnaud Aronpinski. Je ne sais pas si vous connaissez Arnaud Aronpinski. Arnaud Aronpinski, c'est un épistémologue, quelqu'un qui se penche donc sur la question de la connaissance, et qui croit que tous les problèmes peuvent se régler par l'épistémologie, et je pense qu'il a raison. Parce que nous sommes des créatures de la parole et on s'enfarge toujours à cause de nos paroles des choses mal dites. D'où l'importance de bien exprimer les choses. C'est pour ça que nos confessions de foi ont été si compliquées, si difficiles à faire et qu'on ne pourra plus en faire de nouvelles aujourd'hui. Alors, ça s'appelle « La tête coupée ou la parole », ce bouquin-là, que je me suis procuré et j'ai été incapable de sortir de dedans. C'est fascinant. Il y a un paquet de belles exemples comment on peut désinformer les gens. Mauvais usage de la parole, un beau don que Dieu nous a fait, mais qu'on utilise à mauvais escient et qui, au contraire de devenir un bien, devient un mal. Arnaud Aronpinski, donc, donne l'exemple de Ulysse. Vous savez, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Hein? Alors, à un moment donné, Ulysse et ses amis sont chez les lotophages et tout semble bien se passer. Ils partent de là et ils s'en vont au pays des cyclopes. Vous savez, c'est quoi un cyclope? Hein? Il y a juste un œil en plein centre du front. Et voilà que Ulysse se présente là avec ses amis. Et le cyclope, le chef des cyclopes s'appelle Polyphème. Polyphème est très content de les voir se pointer. Alors, il y a une entrevue avec et il les met au menu. Oui. Alors, quand votre nom est au menu, ça agite votre imagination. Hein? Vous n'avez pas hâte d'être dans l'assiette. Alors, ils parlent avec Polyphème, etc. Et un bon moment donné, ils vont travailler dans les champs. Et ils découvrent une plante enivrante. Alors, ils en cueillent à la une, n'est-ce pas? Autant qu'ils peuvent en cueillir. Et là, ils font cette espèce de Kool-Aid version grecque pour Polyphème et ils le poncent. Ils lui en donnent abondamment de sorte que Polyphème devient complètement ivre. Il ne sait plus ce qu'il raconte, etc. Et il est sur le point de s'endormir. Alors, avant de s'endormir, là, il dit, « Avant que je ne m'endorme, dis-moi quel est ton nom. » Et Ulysse lui répond cette phrase qui est devenue célèbre et que tout le monde connaît. « Mon nom est personne. » Mon nom est personne. Pendant que Polyphème dort, Ulysse et les amis retournent donc dans la forêt, cueillent une branche, les pointent à qui mieux, et font pénétrer ça, j'espère que les enfants ne sont pas trop scandalisés, là, dans l'œil unique du cyclope qui, sous l'effet de la douleur, se met à crier « au secours, personne n'essaie de me tuer ». Alors les autres cyclopes se disent « mais quel est le problème avec Polyphème, si personne n'essaie de le tuer, pourquoi crie-t-il au secours ?» Subtil, n'est-ce pas? Et ça date de loin. La parole a souvent été mal utilisée, même si on sait que c'est une légende, cette histoire-là, mais l'histoire de l'utilisation de la parole. C'est intéressant donc comment on peut altérer la réalité. En fait, après la chute, le premier péché qui a été commis, qui a été exposé et condamné par Dieu, c'était le péché de la parole. Lorsque Dieu se présente devant Adam et lui dit « Est-ce que tu as mangé du fruit? » Et l'homme répondit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Première façon d'utiliser un bon don qu'est la parole pour bouler la responsabilité sur la femme à côté. Vous voyez? C'est comme ça qu'on prend un bon don et qu'on va le triturer. Quand les enfants sont petits, on veut leur apprendre à parler. Quand ils sont grands, on voudrait donc leur apprendre à se taire, hein? Parfois. J'avais d'abord choisi comme point, parce qu'on est encore dans l'intro, mais on va venir dans le corps du sujet éventuellement. J'avais choisi comme point, trois points, la langologie, la langophobie et le langodéfi. C'est pas beau? Je me comprenais pas moi-même, alors j'ai dit, on va donc retourner en mode simplicité, de sorte que mes trois points seront les suivants. Le pouvoir de la langue, l'agitation de la langue et la révélation de la langue. On y met les versets 1 et 2. Le pouvoir de la langue. Je m'excuse, je n'ai pas de verre, vous permettez que je boive dans la bouteille. On n'est pas filmé de toute manière. La langue, c'est un sujet qui préoccupe grandement Jacques, toute son épître durant. D'ailleurs, il la mentionne dans chaque chapitre de sa lettre, la langue. La langue, c'est une épreuve, en quelque sorte, qui atteste ou qui nie l'authenticité d'une foi vivante. On l'a lu tantôt, chapitre 1, verset 26. « Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » La doctrine des babines. Hein, ce qu'on dit, ce qu'on raconte, ce qu'on ne retient pas, en dit beaucoup sur la réalité, l'authenticité de notre foi. John MacArthur, qui a gagné en cours, soit dit en passant, vous devez être au courant, et il peut maintenant se réunir, se rassembler, il a gagné en cours, effectivement. John MacArthur écrit, « Ce n'est pas étonnant que Dieu ait placé la langue dans une cage derrière les dents enfermé dans la bouche. » MacArthur a une façon particulière de bien dire les choses et je trouve que c'est très bien dit ici. D'entrée de scène, donc, Jacques s'adresse au prédicateur. « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Il leur fait donc cette mise en garde, une mise en garde aux prédicateurs, une mise en garde aux éducateurs, une mise en garde aux séminariens, hein, à ceux qui se dirigent vers la maîtrise, une mise en garde à tous ceux qui se préparent à diriger la vie de d'autres par le ministère de la parole. Vous serez jugés plus sévèrement. Il ne dit pas ça pour les décourager, mais pour faire ressortir, transcender tout le sérieux d'un ministère de la parole. Les enseignements sont sous la loupe de Dieu et seront jugés sur des standards plus élevés. Vous savez, on ne se compte pas de pipe ici, là. Tous les chrétiens sont égaux. Maintenant, ceci étant dit, il y a une différence. On ne fait pas de différence, de distinction comme le font les catholiques entre le clergé et le laïcat. Cependant, que pour accéder au rôle d'enseignant, ça prend une spiritualité éprouvée, plus élevée que le rituel d'un membre ordinaire. Les enseignants sont donc sous la loupe de Dieu et seront jugés sur des standards plus élevés. Et la raison est simple. Les enseignants occupent une position qui leur confère une grande influence sur ceux qu'ils enseignent. Ils peuvent les conduire dans l'erreur. Ils peuvent leur inculquer une attitude, une posture loin des recommandations bibliques, par leur péché, par leur esprit hypercritique, par leur arrogance, et j'en passe. Rappelons-nous qu'une assemblée est toujours à l'image de son pasteur. C'est comme la famille. On apprend davantage par imitation que par instruction. Bien sûr qu'on reçoit par instruction, mais on reproduit bien davantage ce qu'on voit. On est bien plus des imitateurs que des gens instruits. Donc, il y a toutes les raisons du monde, n'est-ce pas, de mettre en garde ceux qui veulent s'embarquer dans ce ministère-là. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Nouveau Testament nous donne de si bonnes directions quant au choix d'un pasteur. La parole de Dieu ne parle pas de don, mais d'un caractère. Trouvez quelqu'un qui a un beau don, non. Trouvez quelqu'un qui a un caractère. Chrétien. 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. Tite chapitre 1, versets 5 à 9. Je partageais justement avec mon bon frère Pascal, que j'appelle mon fils, comme vous savez, Pascal Deneau, récemment, il n'y a pas si longtemps, et je lui dis, il nous faut être prudents dans l'appel pastoral. On fait venir quelqu'un, on le ferait pêcher une fois ou deux, on dit, bien, il prêche bien, il est bon, on l'embauche. On ne connaît pas le caractère. On ne l'a pas embauché sur des critères bibliques à ce moment-là. 1 Timothée 3, 1 à 3 nous dit ceci. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Et comme si ce n'était pas suffisant, titre de renchérir, chapitre 1, versets 5 à 9, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelqu'un irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, sain, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle est enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. » On a un beau menu pour les enseignants. Celui qui s'engage à conduire les autres dans la foi doit être très soucieux de voir sa vie refléter ce qu'il enseigne. Sa grande connaissance qui impressionne la galerie, et comme disait Charlebois il y a une couple de décennies, qui fait danser les bougalous, met sur lui un fardeau encore plus grand de vivre en harmonie avec cette grande connaissance-là. Sinon, c'est un airain qui résonne. Maintenant, cet enseignement sur la langue s'adresse aussi à tous les croyants. Et c'est bien ce que le verset 2 nous dit d'emblée. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Un homme parfait, nous dit le verset 2. On veut tous être parfaits. Nous tous qui sommes parfaits marchons de même pas, dit Paul aux Philippiens. Que veut dire le mot téléos, le mot parfait? Bien sûr, dans le contexte présent, il ne fait pas référence à la perfection absolue que nous aurons exclusivement lorsque nous entrerons dans la gloire, mais fait référence à une maturité, à un contrôle important. Et quelqu'un qui peut contrôler sa langue a remporté une victoire fondamentale sur l'un des éléments les plus difficiles à garder en bride dans le corps humain. Le reste devrait donc être plus facile. C'est dire que si tu contrôles ta langue, tu pourras faire de même avec le reste de ton corps. C'est vous à quoi ça me fait penser? On cherche toujours des illustrations. Ça, c'est le cauchemar des prédicateurs. Trouver des bonnes illustrations. Moi, ça me fait penser à un panneau électrique, une espèce de switchboard. Un panneau électrique pour contrôler les lumières dans une église. Alors là, vous avez le panneau et vous avez tous les boutons, n'est-ce pas, qui contrôlent chaque secteur. Ce bouton ici, c'est pour le côté gauche, le bouton droit, etc., etc. Chaque bouton a son contrôle à assurer. Mais vous avez en plus un bouton maître. Un bouton maître. Et il n'y a personne qui va vous dire, si vous êtes assez fort pour appuyer sur le bouton maître, alors là, vous allez contrôler le reste du panneau. Ce n'est pas une question de force, c'est une question d'appuyer sur le bon bouton. Et c'est comme ça avec la langue. Et c'est ce qu'il nous dit. Si quelqu'un contrôle la bouche, c'est pour ça que j'ai intitulé ma prédication, la clé maîtresse. Et c'est ce que l'apôtre nous dit aussi, c'est ce que Jacques nous dit également. Si quelqu'un contrôle ce bouton-là, le reste de son corps va tomber en bonne place, nous dit l'apôtre, nous dit Jacques, pardon. Le fait est simple. Si vous contrôlez l'interrupteur maître, vous contrôlez toutes les lumières. Vous êtes maître du panneau de contrôle. Si un homme contrôle sa langue, c'est un homme parfait. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. C'est donc le verset qui doit retenir notre attention dans toute cette péricope. Si que nous avons. Et c'est bien sûr une lutte de tous les instants. Personne ne va en disconvenir. Aucun croyant n'est parfait au sens premier du terme. Nous ne sommes pas des perfectionnistes. Et nous ne courons pas après la perfection. Nous courons après la maturité. Nous voulons devenir matures. La perfection, ça va venir en son temps. Ça, c'est au-delà de l'incarnation, lorsque nous allons entrer dans la gloire. Le jour viendra où nous nous tiendrons devant Dieu parfaits, sans faute et dans une joie indicible. Mais d'ici là, la langue tend à se faire aller. Et Jacques donne deux illustrations quant au pouvoir de la langue. Verset 3 et jusqu'au verset 5a. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Quelles belles illustrations, quelles belles images inspirées d'en haut, inspirées de l'Esprit Saint. Il nous présente d'abord un mort, c'est gros comme rien, hein, c'est tout petit, un mort dans la bouche des chevaux pour les diriger. On peut facilement voir l'image. Un cheval, c'est impressionnant. On trouve ça beau à la télé, on trouve ça beau sur les calendriers, mais dès qu'on est juste à côté, on trouve ça gros. Et c'est non seulement gros, mais c'est puissant, c'est fort. Hein, ça peut traîner des charges énormes. Et ça peut faire toutes sortes de choses, un cheval. C'est tout en puissance. Et, n'est-ce pas, on peut dire qu'avec un tout petit mort placé dans sa bouche, on le dirige et il revient à la charge avec sa deuxième illustration, avec un très petit gouvernail qui sert à diriger les grands navires dans les vents contraires, par vents et marées. On voit cela parfois sur le bord de l'eau, les gros navires qui se pointent, n'est-ce pas, et qui vont ils vont pas leur route, parce que c'est pas une route, qu'ils vont leur chemin, pourrait-on dire, et à travers les vagues rageuses qui frappent contre le navire, les vents qui s'opposent, et le grand navire s'en va vers sa destination, vers son quai. Qu'est-ce qui fait qu'il s'en va là? Parce qu'il est brillant? Non, parce qu'il y a un petit gouvernail qui lui indique la bonne direction. C'est l'illustration que Jacques est en train de nous donner ici. Les deux illustrations qui mettent l'emphase sur le contrôle exercé par une personne sur un petit objet. Soit avec un mort pour diriger un cheval, avec un gouvernail pour diriger un navire. Ben, c'est la même chose avec le petit gouvernail qui est notre langue pour nous diriger dans la vie. Trois illustrations. Le mort, le gouvernail et la langue pour lutter contre les forces contraires et triompher. La langue peut effectivement se vanter, elle le fait d'ailleurs, se revendiquer de grandes choses. Dieu, en effet, lui a accordé une place de choix dans l'organisme humain. On sait ce qu'on peut faire avec la langue, surtout ceux qui l'ont bien pendue, dit-on. Hein? On a le verbomoteur bien aiguisé, hein? On peut manipuler, on peut convaincre, on peut faire toutes sortes de choses. On sait ce qu'on peut faire avec. Ce tout petit muscle, et j'ai aimé l'expression de Charles Swindoll ici, « cette dalle de 2 onces de muqueuse », poétique et bien dit, pour reprendre l'expression de Swindoll, « a la puissance de déterminer des destinées ». Prenons en témoin les langues d'Adolf Hitler et de Winston Churchill lors de la dernière guerre mondiale. Une langue belliqueuse, une langue harmonieuse. Une langue de paix irénique. Hitler soulève tout un peuple et plusieurs peuples pour une guerre. Hein? Et la langue de Winston Churchill qui finalement s'assure de combattre pour ramener la paix. Ce n'est qu'un exemple parmi des tonnes qu'on pourrait donner. Et Jacques va aller plus loin un tout petit peu. Il va aller d'une troisième illustration pour mettre en lumière tout le tort qu'une langue manipulatrice, une langue mal intentionnée, une langue à la recherche de ses propres intérêts, peut faire. Versets 5 et 6. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Le feu possède une capacité étonnante de se reproduire. C'est pas le cas de l'eau. Verser de l'eau sur une pierre, ça ne fera pas une inondation. L'eau ne se reproduit pas. Le feu, lui, se nourrit, puis grossit, puis fait beaucoup de dommages. Pardon. Il s'alimente de lui-même dans la mesure où il y a suffisamment de matière inflammable et d'oxygène pour le soutenir et peut brûler indéfiniment. J'ai trouvé cette illustration-là intéressante. Elle est dans plusieurs commentateurs d'ailleurs, dont Warren Worsby, pour ceux qui le connaissent. Il nous rappelle ce qui s'est produit en 1871. En fait, c'est arrivé à le 8 octobre 1871, vers les 20h30. Pour être plus précis, on va être précis. Dans l'étable de Mme O'Leary, voilà qu'accidentellement, une vache renverse une lanterne qui allume le grand incendie de Chicago. Vous avez entendu parler du grand incendie de Chicago. Ben, c'est une vache qui a démarré ça en renversant accidentellement une lanterne. Avant qu'on ait pu l'éteindre, il avait détruit 17 500 édifices, tué 300 personnes, avait laissé 125 000 autres sans-abri. Il avait coûté 400 millions pour faire face aux dégâts, 400 millions en 1871. Ce sont des sous, mes bien-aimés. Et tout cela a commencé par une vache qui a renversé une lanterne. Il faut peu pour allumer un grand feu. Et on ne peut pas imaginer les répercussions, les conséquences d'un feu qu'on allume. Sommes-nous en train de combattre avec notre langue cet après-midi? combattre la calomnie, les médisances, les harcèlements? Sommes-nous prompts à partir des rumeurs au travail, à la maison, à l'église? Avons-nous cette facilité à faire toutes sortes de scénarios? Vous savez comment nous sommes bons comme êtres humains, comme je dis souvent, comme humanoïdes Australopithecus, hein, pour prendre deux, trois événements, les mettre ensemble, puis faire un beau tableau et assurer que c'est la réalité. En anglais, on dit « to connect the dots ». Et ça affecte notre agir et ça affecte celui des autres. Et on parlait tout à l'heure des fake news. Lorsque nous commettons ce genre de péché-là, parce que c'en est un, le péché de la langue, nous n'agissons pas, bien aimés, comme des chrétiens. Nous laissons notre langue anarchique être enflammée par la géhenne, parce que c'est ce que Jacques nous dit dans le texte d'aujourd'hui. Hein? Elle est de l'enfer, elle est de la géhenne. C'est le monde de l'iniquité. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi les membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Méchante affiliation, une langue affiliée à la géhenne. Le monde de l'iniquité, c'est tout un monde. La langue contient et colporte tout le système de méchanceté, le monde de l'iniquité. J'ai envie de vous dire, dans la frise que vous voulez, que les 9/10 des flammes que nous expérimentons dans notre vie nous viennent de la langue, ce pipeline du mal. Ce qu'on dit aux autres, ce qu'on se dit à soi-même dans notre intérieur, tous les scénarios qu'on se fabrique, nos fabulations. Et Jacques de poursuivre au verset 7 et 8. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Un venin, c'est un poison. Un venin, là, fait pas de bruit toujours, hein? Un poison, ça travaille secrètement, ça travaille lentement, mais ça travaille sûrement. Ça tue. C'est fascinant, toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles domptés, de voir à quel point l'homme peut domestiquer les animaux de toute grosseur et de toute espèce. Hein? Dompter un petit chien, c'est une mouvance. Mais dompter un lion, on change de registre, n'est-ce pas? Dompter un dauphin, lui apprendre à faire toutes sortes de beaux gestes. Dompter un gros oiseau, et on va au cirque, on est émerveillé de voir ce que l'humain peut faire avec les animaux de la création. Absolument phénoménal, on dit véritablement, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de soumettre la création, et ça nous émerveille, n'est-ce pas? Et à juste titre. Mais la langue, beaucoup plus petite qu'un lion, qu'un éléphant, que les animaux qu'on dompte, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Grand merci à Saint Augustin. Saint Augustin qui nous a dit avec justesse, Jacques ne dit pas que personne ne peut la dompter, mais bien qu'aucun homme ne peut le faire. Alors, ce n'est pas une cause désespérée. Aucun homme ne peut le faire. C'est dire que lorsqu'une langue est sous contrôle, ce n'est rien de moins que le fruit de l'esprit. Ce n'est rien de moins que la grâce de Dieu qui est à l'œuvre dans cette vie-là et qui amène un chrétien à maturité. Maintenant, il peut contrôler sa langue, non seulement pour parler aux autres, mais dans ce qu'il se raconte à lui-même. Et ça nous amène, ça nous donne un indice pour notre troisième point, la révélation de la langue. Les versets 9 à 12. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Et dans une grande mesure, C'est notre façon de parler qui nous fait connaître aux autres. Dans une grande mesure, c'est notre façon de parler qui nous fait connaître aux autres. Comment est-ce qu'on se révèle? Par notre discours. Comment est-ce qu'on connaît Dieu? Par sa révélation. La langue, c'est nous. C'est notre vrai nous. C'est d'une façon unique nous. MacArthur de dire, c'est une commère qui trahit et dévoile la vraie personne. On peut dire un amen là-dessus. Bel effort. En réalité, la langue n'exprime que ce qui lui vient du cœur. Est-ce qu'elle fouille ailleurs? Non. Quand vous êtes à côté d'un robinet et qu'il sort de l'eau mauvaise, hein, vous ne commencez pas à taper sur le robinet, espèce de robinet idiot. Pas du tout. Vous savez que ça vient de la source, l'eau. Alors, la langue n'exprime que ce qui vient du cœur, la source du péché. Matthieu 15, 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies, etc. Le problème n'est donc pas le robinet, mais la source. Et ici, Jacques affirme l'incompatibilité d'un cœur pur et d'un discours impur avec trois illustrations. Il est bon là-dedans, le bonhomme. Il devait être bon pasteur. Trois illustrations pour démontrer l'incompatibilité d'un cœur pur et d'une source impure. Verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Mais y en donc. Hein? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Bien, voyons donc. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Vous voyez, dans chacune, il s'agit toujours de la forme rhétorique d'une question à laquelle la réponse doit être non. Non. Il ne peut pas en être ainsi. Le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur de nos cœurs. Il doit aussi être le Seigneur de nos lèvres. Et ceci nous amène à conclure en nous posant la question. Réfléchissez à la question qu'on peut se poser à la suite d'un message comme celui-là. Qu'est-ce que mon discours révèle au sujet de l'état de mon cœur? Et c'est une question qui, prise au sérieux, peut être extrêmement troublante. Vous savez, doit être troublante. Est-ce qu'il y a une colère inappropriée dans mon discours? Est-ce qu'il y a de l'amertume? Est-ce qu'il y a de la grossièreté dans mes propos? Est-ce que mon expression est mondaine, vulgaire, un peu trop légère? Est-ce que mon discours est vide de la grâce de l'Évangile, des choses de Dieu? Est-ce uniquement séculier, cru, voire même grossier? Est-ce que je fais dans les faux fuyants? Est-ce que je trompe les autres? Est-ce que je leur mens? Est-ce que je leur manque de respect? Est-ce que je les critique de manière inappropriée? Et on pourrait continuer à l'infini. Est-ce que mon discours fait avancer la cause de l'Évangile? Est-ce que mon discours fait avancer la cause de l'Église, la cause du Christ? Les choses doivent être dites dans cette perspective-là. Vous savez, quand le Christ s'est incarné, quand la parole s'est faite chair, il nous a dit qu'elle est venue pleine de grâce et de vérité. Et il n'est pas venu uniquement pleine de vérité, il y avait la grâce. Pas uniquement pleine de grâce, il y avait la vérité. Les deux vont de pair et sont inséparables. Il y a des choses qui doivent être sues, connues, révélées. Quand je parle, est-ce que je fais avancer la cause du Christ ou la mienne? Jacques nous dit cet après-midi qu'un modèle de discours pécheur chez un chrétien professant doit être considéré comme un besoin sérieux de grâce, mes bien-aimés. En fait, la réalité de ce texte suggère deux volets d'application. Si vous êtes un chrétien en lutte, Si vous êtes un chrétien en lutte dans cette sphère de votre vie, en train de lutter avec votre langue, ça révèle que vous avez un intérêt profond pour la sainteté et vous êtes sur la bonne route. Dans le cas contraire, c'est la révélation d'un besoin, peut-être même de salut. De venir au Christ lui-même, et c'est la bonne nouvelle parce qu'il y a une bonne nouvelle. Celle du Christ qui est venu à notre secours. Au verset 12, la nature de l'arbre détermine le fruit. Et en retour, le fruit rend témoignage à l'arbre. Puisse le Seigneur, en ces jours de confusion, dans le monde et dans l'Église, nous donner de demeurer des voies de sainteté, des voies de vérité, à sa plus grande gloire. Bien-aimés, c'était la parole de Dieu. Amen.